Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Lifior et prise de son assurée ce soir par YouTube Diego Aclopez, réalisation Daniel Fino. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Jean-Christophe Brianchon, Philippe Chevillet, notre affiche Tristesse et joie dans la vie des girafes. Pièce de Thiago Rodriguez, mise en scène par Thomas Quillardet. La fuite, comédie en huit songes de Mikhail Bulgakov, mise en scène Masha Makayev. Et El Otro de Luis Guenel. Boris Pino, non, c'est Aïssa Tundoy ce soir qui est là à mes côtés. Pourtant, est-ce qu'on semble assez peu? Et déjà sur Twitter pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez avoir sur les pièces dont nous allons parler ce soir. Et toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Poesia sin fin d'Alejandro Rodorovsky, distribué par Potemkin. N'est pas coutume. Nous allons ouvrir cette émission avec un spectacle dit jeune public, même si je n'aime pas beaucoup cette catégorisation. Je préfère dire tout public, étant entendu qu'un spectacle jeune public, quand il est bon, il doit s'adresser à tous. Enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Cas d'espèce avec une pièce de Thiago Rodriguez, Tristesse et joie dans la vie des girafes, mise en scène par Thomas Quillardet, qui avait été présenté l'été dernier au Festival d'Avignon, qui poursuit sa vie en tournée, quelques soirs encore à l'affiche du Montfort à Paris, puis d'autres dates que je donnerai dans quelques instants, pour situer un peu le récit girafe. C'est une petite fille, elle a 9 ans, sa maman vient de mourir, elle se console en regardant Discovery Channel jusqu'au jour où son père, artiste au chômage, ne peut plus payer l'abonnement. Accompagné de son ours en peluche suicidaire, nommé Judy Garland, girafe part donc en quête d'argent dans les rues de Lisbonne. Rencontre, frayeur, parcours initiatique. Girafe met souvent les adultes rencontrés face à leurs contradictions, à la violence et à l'absurdité aussi, qui est assez grande de notre société.
Girafe ?
Oui, maman.
Septième mot.
Page 53. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa.
Ça, c'est moi dans ma chambre. Ça, c'est le son des couvertures tombant sur le sol. Souvent, la nuit, j'avais coutume de prendre Judy Garland avec moi. J'allais jusqu'à la porte de la chambre de l'homme qui est mon père et de la femme qui était ma mère, et je restais là, à les entendre parler et fabriquer des baisers. Ça, c'est le son de mes pas et des pas de Judy Garland quand nous marchons dans le noir jusqu'au salon. Ça, c'est le son de l'homme qui est mon père, seul dans le salon. Ça, c'est le son de l'homme qui est mon père, tournant une page d'un livre de la femme qui était ma mère. Ça, c'est le son de l'homme qui est mon père, lisant. Je ressens du bonheur quand je le surprends vivant, comme si je n'existais pas. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'homme qui est mon père entrait dans l'histoire de ma vie avec un rôle secondaire, mais aussi qu'il entrait dans l'histoire de sa propre vie. Et dans cette vie, il avait le rôle principal. J'ai serré l'oreille de Judy Garland avec force, en ayant la certitude que lui aussi savait ce qu'était le bonheur de ne pas exister et de pouvoir ausculter les autres dans l'histoire de leur vie. En dépit de son sale caractère, Judy Garland était un bon ami. Parfois, il me manquait et j'avais beaucoup de remords de devoir le tuer un jour. Judy Garland ?
Je vais te faire foutre, putain ! Enculé, quoi ?
Je vois...
Tu vois quoi ?
Une chose.
Quelle chose ?
Merveilleuse.
De quelle couleur ?
Grise.
De quelle forme ?
Un animal en peluche.
Mais c'est moi ?
Ben oui, c'est toi.
Eh oui, c'est Judy Garland. Lucille Como, pour commencer ce spectacle « Tristesse et joie dans la vie des girafes ».
Alors on entend en fait ce génie de la langue de Thiago Rodriguez qui est là traduit par Thomas Killardet, donc qui signe aussi la mise en scène et qui ne sacrifie rien au côté justement jeune public du spectacle puisque sa langue est aussi belle que quand il fait des textes dits pour adultes. C'est une langue qui est très très fine, à la fois très simple. On entend là il parle du dictionnaire puisque le dictionnaire a une importance dans la vie de cette petite girafe puisque sa mère communiquait avec elle en lui mettant des post-it sur certains mots du dictionnaire. Donc elle continue à parler un petit peu comme une encyclopédie. Et ce côté encyclopédique, très analytique, on l'entend dans la langue de Thiago Rodriguez. Donc il y a des sortes de formules qui pourraient devenir des tics, mais qui créent une très belle langue. Donc cet homme qui était mon père, cette femme qui était ma mère, etc. Ou là, c'est moi en train d'eux. Ça, ce sont des sortes de formules, oui, qu'elle se dit en permanence. Donc c'est un langage à la fois très simple, très empathique, une vraie empathie dans la langue. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et pas du tout mièvre. Et ça, c'est très fort parce que à la fois, il arrive à créer un attachement qui est vraiment de l'ordre de l'enfance, d'un attachement enfantin pour des personnages, et en même temps à faire quelque chose de pas mièvre du tout. Et puis, il réussit beaucoup. Moi, je trouve qu'il est très très fort dans le comique. C'est extrêmement drôle comme texte. Là, on entend ce personnage de Judy Garland qui est donc un ours en peluche, qui est à la fois sur scène un petit ours en peluche et puis un gros ours en peluche.
Un gros bonhomme. C'est-à-dire,
voilà, un comédien déguisé en ours en peluche avec cette voix qu'on entend qui est incroyable et ces mots qu'il n'arrête pas de dire putain de ta mère, enfin c'est très drôle de voir ça avec des enfants. Moi en l'occurrence j'ai vu ça un après-midi avec des scolaires donc évidemment c'était la fête. Et puis c'est aussi ce comique, donc il y a un comique de langue qui est vraiment parfait et il y a un comique de situation qui est là très lié aussi à l'enfance qui est que tout, et dans la mise en scène, ça c'est très bien fait, on y reviendra j'imagine, mais tout fait théâtre. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une arme, hop, bah, on prend une plante. Après tout, pourquoi pas, ça peut servir d'arme. Quand on a besoin d'argent, bah, on va à la banque et puis on demande de l'argent. C'est cette espèce de logique enfantine qui pourrait paraître simple. Là, elle fait réellement théâtre et sur scène, c'est vraiment un très beau spectacle. Pour le coup, c'est un petit peu mièvre de dire ça, mais pour les petits et pour les grands, ça fonctionne.
Ce n'est pas mièvre du tout, Lucille, rassurez-vous. Je reviens vers vous, Philippe Chevillier.
Oui, moi aussi j'ai été séduit par la langue et puis par c'est incroyable cette capacité qu'il a, ce talent de conteur et de tricoteur et d'arriver. Vous savez que écrire et tricoter c'est pareil, comme disait Grégoire Brouillon.
Disait Grégoire Brouillon, oui.
Prosper Brouillon. Et donc de tricoter en fait des genres, parce qu'on a à la fois la pièce pour enfants, mais on a en même temps une pièce sociale. Il arrive à nous parler du libéralisme, de l'ultralibéralisme au Portugal. Il arrive à nous parler du chômage, du deuil, et toutes ces notions là. C'est donc la référence à la mer, la référence à comment gagner de l'argent, comment trouver de l'argent très vite pour pouvoir payer cet abonnement à Discovery Channel. On y voit un banquier qui est vraiment très méchant. On y voit un premier ministre. Et c'est le premier ministre du Portugal. Il arrive à faire tout ça et tout ça paraît cohérent, parle aux parents comme aux enfants, aux petits et aux grands, comme disait Lucille. Et donc tout ça, moi, me réjouit parce que ça me rappelle ce qu'il avait pu faire aussi à la Bastille, avec l'occupation Bastille, à faire une pièce en 8 jours. Vraiment, il est très fort pour ça. Et alors, c'est vrai que derrière, il y a un joli travail de Thomas Killardet dans la mise en scène, qui est à la fois utilise des choses très simples et en même temps assez complexes dans le maniement, parce que c'est beaucoup de suspension, de jeux d'ombre, de tissus qu'on ôte, qu'on élargit, de petits accessoires. Il y a aussi un travail de son. Et tout ça, avec des acteurs qui sont plutôt sympathiques et qui jouent à fond leur rôle, ça fonctionne bien, voilà.
Bon, Jean-Christophe Brianchon et son âme d'enfant.
Bah, je dirais pas que je l'ai perdu, mais je l'ai pas retrouvé exactement avec ce spectacle, en tout cas. Puisque pour ce qui est de la langue de Thiago Rodriguez, je suis assez d'accord quand il s'agit des instants du texte qui parlent à l'enfance ou de l'enfance. En revanche, j'ai trouvé que les instants où il tentait d'élaborer un propos social, voilà, la critique qu'il peut faire du capitalisme, de la finance à travers ce personnage de banquier, entre autres, et j'ai trouvé était assez maladroite, ou en tout cas elle-même assez enfantine comme critique et comme manière d'attaquer ces problématiques-là. Donc en l'occurrence, à ces instants-là, j'ai trouvé que la langue était habile, mais pas nécessairement sur le fond du propos intelligente. Et ça m'a un petit peu dérangé, parce que ça prend quand même pas mal d'espace dans cette pièce. Et puis, ce que j'aime, en l'occurrence, personnellement, chez Thiago Rodriguez, c'est de retrouver sa sentimentalité à lui, qui est particulièrement belle et qu'on pouvait, a priori, retrouver dans cette pièce, puisqu'il s'agit quand même d'un enfant qui a perdu sa mère. Et dans ces thématiques-là, de la perte, de l'absence, de l'amour, entre autres, il est particulièrement beau quand il écrit. Et là, je n'ai pas retrouvé ça, peut-être entre autres du fait que ce soit une pièce justement pour enfants, puisque malgré tout, on sent quand même que ce n'est pas son écriture habituelle, c'est quand même une écriture qui est adressée à un public particulier. Et donc là, on se retrouve peut-être effectivement face à un spectacle jeune public et pas nécessairement tout public, ou en tout cas à certains instants de son texte. En revanche, j'ai trouvé que ce qui était très intéressant, plus que le texte lui-même, c'est cette scénographie de Lisa Navarro, au fil du temps qu'on retrouve en ce moment pas mal, qui est une scénographe qu'on retrouve beaucoup. Elle a fait entre autres le Dorine de David Jesselson et le son En route Kaddish aussi. Elle a travaillé avec Sylvain Creusevaux. Je trouve que c'est une scénographe qui est très intéressante et qui, par son travail de scénographie, arrivait à certains instants à combler les trous de la dramaturgie et les trous du texte, les trous sentimentaux du texte, entre autres par ce sol qui est recouvert d'un tissu qui se trouve être la traîne de la robe de sa mère morte et qui par la suite devient la maison dans laquelle, ou en tout cas la cabane dans laquelle cet enfant essaiera de rêver. Et j'ai trouvé ça très beau, je trouvais que c'était une scénographie particulièrement intelligente et qui rattrapait parfois les manquements ou les oublis peut-être de Thiago Rodriguez.
Oh, je vous trouve dur, Jean-Christophe Brianchon, parce que moi, alors vraiment, peut-être que je n'ai pas assez de réserve sur ce texte qui vraiment m'a enchanté d'un bout à l'autre. Je signale qu'il est publié comme tous les textes de Thiago Rodriguez en français au Solitaire d'un Tempestif, et vraiment ça vaut la peine d'y aller voir sur les pages même, parce que je trouve que justement la langue est très belle, ce qui pourrait faire tic. Ça, c'est un équilibre extrêmement subtil hein, chez Thiago Rodriguez, vous le disiez, Lucille Como, ça pourrait faire tic, mais non, moi je trouve que ça passe très justement, et je trouve vraiment que les différentes émotions et les différents sujets sont traités presque à égalité. Enfin, il ne s'agit pas d'être à égalité entre le deuil, le capitalisme et la vision du monde d'adulte par un enfant, mais je trouve que c'est extrêmement réussi à tous ces égards-là. C'est vrai que vous l'avez rapidement évoqué, Philippe Chevillier, le travail sur le son est quand même particulièrement beau aussi, parce qu'il y a quand même de la prise de son en direct. L'extrait était peut-être pas, qu'on a entendu, était peut-être pas le plus frappant, mais il y a une utilisation vraiment riche, parce que c'est un spectacle qui, pour le coup, ne doit pas coûter très cher. On parlait d'un spectacle la semaine dernière qui devait sans doute coûter cher, de votre ami Vincent Macaigne. Là, on n'est pas dans la même économie, ce qui est d'ailleurs... Pourquoi on ne donnerait pas plus d'argent au spectacle dit jeune public? Mais il n'en a pas besoin, Thomas Killardé, parce que je trouve que son inventivité, sa direction d'acteur, moi je les trouve plus que... Vous avez dit sympathique, je vous trouvais aussi un petit peu dur, Philippe Chevillier. Moi je les trouve vraiment d'une grande justesse, avec une mention spéciale pour Marc Berman, qui joue cet homme plus âgé, qui va endosser différentes figures, et que je trouve absolument irrésistible. Mais c'est le cas aussi, enfin, pour les autres interprètes, pour Giraffe, pour Judy Garland, enfin, vraiment de beaux rôles dans ce spectacle. Et moi, je trouve qu'il nous tient d'un bout à l'autre aussi, même si ce n'est pas une durée extrêmement longue, 1h15. Est-ce noté? Je ne me rappelle plus, c'est tout 1h20. À fait ça. 1h20, bon. Je trouve que vraiment, on retient son souffle jusqu'au final. Enfin, il y a quand même quelque chose aussi du suspense sur la quête de cet enfant pour réunir les... quelques dizaines de milliers d'euros pour avoir Discovery Channel à vie. Lucille Como qui opine.
Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien comme quand un livre jeunesse est bien réussi. C'est très comparable parce qu'il y a cet équilibre entre l'image et le texte qui est parfait. C'est-à-dire qu'il y a, moi, je trouve aucun hiatus entre la scénographie et entre la mise en scène et le texte. On sent que c'est vraiment une œuvre tout à fait cohérente. Comme elle est mise en scène par Thomas Killardé. On sent vraiment que... Moi, je trouve que quand je dis que c'est un spectacle attachant, on sent que tout le monde y a mis quelque chose de profondément humain ou d'assez doux. Enfin, je sais pas trop comment décrire, mais ça se sent comme un livre pour enfants quand il est bien écrit et que les images correspondent parfaitement au texte. Et quant au texte, ce que vous disiez, Jean-Christophe, moi, je trouve qu'il n'y a pas de trou. Je trouve qu'il est très cohérent. Le texte, il est très tendu vers sa fin. Et justement, Marc Berman, donc, qui est cet acteur qui interprète en fait tous les adultes en dehors du père auquel est confrontée la petite Gilles, Giraffe, ce personnage-là, il tient vraiment le texte adulte, entre guillemets, il tient la posture adulte, ce qui est une posture absurde, puisque de toute façon, le point de vue est le point de vue de l'enfant. Donc la posture adulte du banquier, du ministre, est forcément intenable. Et c'est peut-être ça qui vous a gêné, mais du coup, c'est totalement cohérent avec le reste du texte, à mon avis.
Pas d'accord.
En l'occurrence, Marc Bergman m'a pas du tout gêné puisque je le trouve absolument formidable. Ah. Donc, c'est en tout cas pas lui.
C'est le texte qu'il porte et lui.
Parce que, voilà, je trouve que le texte qu'il porte est c'est juste un petit peu naïf, un peu faible, quoi. Je sais pas. Je trouve ça
naïf ou faible, c'est pas la même chose. On est à hauteur d'enfant.
Ben, alors c'est pas la même chose, mais en l'occurrence ça peut aller ensemble. Et en l'occurrence je trouve que ça va ensemble parce que bon nécessairement alors c'est inhérent au projet lui-même de, quand on décide de s'attaquer à une problématique telle que une critique du libéralisme ou du capitalisme. Bon, évidemment quand on s'adresse à un jeune public, même quand on s'adresse à un public plus âgé, de toute façon il faut simplifier les choses. En 1h20, ce sera compliqué de dire quelque chose de difficile ou de réellement intéressant. Donc ça, c'est pas forcément grave en tant que tel. Juste là, j'ai trouvé que c'était du coup pas forcément nécessaire, en fait. Juste tout simplement. Cette histoire en elle-même de cet enfant qui rêve est belle. Donc pourquoi l'ancrer dans la laideur du monde dans lequel on vit?
Parce que je crois bien que c'est le projet, Jean-Christophe.
Oui, mais bon, si j'avais été là, le projet aurait peut-être pas été le même.
D'accord.
Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis, bien sûr.
Il est important. Philippe Chevillier.
Oui, ça s'appelle Tristesse et joie dans la vie des girafes. Alors moi, c'est pareil, je renchéris là-dessus. C'est vraiment, évidemment que c'est simpliste, mais c'est en quelques touches. On a le banquier, comme on a d'ailleurs le vilain garçon. Superman, il est aussi le vilain garçon, oui. La panthère. C'est des personnages qui sont bien trempés. Et moi, je trouve que la partie deuil, la partie le rapport au père, il y a un moment ce dialogue entre le père qui joue le rôle de la mère comme un fantôme. Il y a beaucoup de cette dimension-là. Et à la fin, c'est vrai que on retrouve l'image de la mère et l'essentiel. Et aussi la discussion avec Tchekhov, dont on n'a pas parlé.
Oui.
Ce sont des très beaux moments. Et ce qui est beau dans ce conte, est-ce que je trouve vraiment fort dans le texte, un texte pour enfants, c'est que ça nous remet dans le monde aujourd'hui sans justement en faire trop, quoi. Il y a juste cette scène un peu comique avec le banquier, mais bon, et puis avec le Premier ministre, mais pour le reste, je trouve que c'est pas très appuyé. Et je voulais juste revenir sur les acteurs sympathiques qui pour moi n'étaient pas une critique, c'est vrai que je l'ai dit avec un ton un peu comme ça, mais en fait... En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est une forme de modestie. C'est-à-dire, ils font pas un numéro, et notamment le rôle de la girafe, hein, qui est pas si évident que ça. C'est Malou Fourdrinier qui le tient très bien.
C'est très casse-gueule, hein.
Parce que elle arrive à tenir sur une distance et en même temps, elle est quand même la petite fille, elle est quand même la girafe. Donc non, moi c'est un spectacle qui m'a. Alors en plus c'est intéressant parce que moi je l'ai pas vu avec tendance. C'était à Avignon quand je l'ai vu et il y avait de très grands enfants, un peu vieux d'ailleurs dans la salle et qui n'étaient pas forcément. Il n'y avait pas assez d'enfants et c'est bien, je pense, de le voir avec des enfants, voir comment ils réagissent et.
Lucille, vous confirmez ?
Oui, bah moi j'aime bien voir les spectacles en condition, entre guillemets. Là, c'est vrai qu'il y avait, en plus, je crois que le spectacle est un peu victime de son succès. Il y avait beaucoup trop de classes pour la petite salle du Théâtre Montfort, donc c'était absolument blindé d'enfants d'une dizaine d'années et vraiment ça marchait très très bien.
Aïssa Doundoï, quelques petits commentaires, plus des éloges, j'ai l'impression.
Bah, Gido avait l'air raccord avec ce que vous dites, les enfants avaient l'air ravis en fin de représentation. Et Sonia nous dit, un bien beau spectacle pour petits et grands qui ne laissent personne sur le bord de la route, une réussite. Et on a un message qui vient d'arriver de Sylvie Collin qui nous dit que le Girafon et Sabou sont à l'écoute. Et ils sont apparemment sous le charme de la voix de conteuse de Lucille Comeau.
Bon, prochainement... Sur scène, Lucille Comeau vous racontera des histoires de Tati Lucille. Hein, pour l'instant, nous parlions de Tristesse et joie dans la vie des girafes. Je rappelle que le texte est publié en France aux éditions Les Solitaires Intempestifs dans une traduction de Thomas Quillardet, ce texte de Thiago Rodriguez. C'est Thomas Quillardet qui met en scène jusqu'au 9 décembre au Théâtre Montfort. Et effectivement, face au succès des représentations, il y en a une supplémentaire jeudi 7 décembre à 19h30. Et puis d'autres dates en tournée, pour l'instant 14 janvier au Théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi, le 19 et 20 janvier au Trident à Cherbourg, 25-26 janvier au Théâtre Jean Lursa à Aubusson, 30 et 31 janvier au Théâtre de Vanves. Et on pourra voir aussi ce spectacle du 6 au 17 avril au festival Terre de Parole en Normandie. Et devant un tel succès, j'imagine que sa vie continuera. C'est tout ce que je lui souhaite. À suivre dans la dispute, La Fuite et El Otro.
France Culture,
La Dispute,
à Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée le lundi soir au spectacle vivant et direction Saint-Denis au TGP où est actuellement présentée La Fuite, comédie en 8 songes, pièce en 4 actes de Mikhaïl Bulgakov, mise en scène Masha Makeyev. Après sa création à la Criée à Marseille et avant de poursuivre sa tournée, La Fuite en question, c'est celle de Russe Blanc après la victoire des bolcheviks. Fuite donc déclinée par le dramaturge en 8 songes.
Mais savez-vous vraiment qui vous attendait ici et maintenant?
Quittons.
Les rouges.
Citons. Mais c'est impossible.
Tout ce qu'il y a de plus sûr. Nous sommes là à évoquer les saintes écritures. Pendant ce temps, la cavalerie rouge approche au grand galop de Sébastopol par le nord. Regardez. Regardez, Africanus.
Le ciel est en feu!
Bien vu! Embarquez au plus vite, Africanus, embarquez! Le voilà volatilisé, l'évêque. Cloudov, je tenais à vous voir au plus vite. Tout le monde a pu fuir? La cavalerie a été attaquée par des paysans anarchistes. La plupart des nôtres ont échappé au massacre. De mon côté, j'ai voyagé bien calé dans mon wagon. Ceci dit, Excellence, il fait sombre comme à la cuisine.
Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire?
C'est quand j'étais enfant. Un soir, j'entre dans la cuisine sombre et il y avait des cafards sur le fourneau. Je craque une allumette. Et pfff, détale, plus rien. L'allumette s'éteint. Alors, on entend à nouveau le bruissement de leurs petites pattes dans le noir. Voilà, les voilà, les voilà. Et pour nous, c'est pareil, ténèbres et bruissements. Mais je me demande où on va, Excellence, hein, comme ces cafards sur la table de la cuisine, tout droit dans le seau d'eau. Plouf ! Comme des cafards dans une cuisine, Excellence.
Bah, bon appétit si vous êtes à table, hein, les cafards dans la cuisine, c'est ragoûtant ça. Philippe Chevillier, La Fuite.
J'ai beaucoup aimé ce spectacle. D'abord, découvrir un texte que je ne connaissais pas de Bulgakov. Je pense que c'est le spectacle le plus personnel de Masha Makeyev, puisque évidemment, pour les spectateurs, ils s'en rendront compte tout de suite dans la mesure où elle apparaît sur scène en petite fille. Cette histoire qui se passe en 1900-1921, les Russes blancs qui fuient une défaite qui les amène à Yalta, Constantinople et à Paris, et on revient à Constantinople.
Sachant que Masha Makeyev donc est issue,
alors voilà,
d'une famille
et que sa grand-mère, quand elle allait la voir à Lyon, souvent délirait un peu et dans ses rêves racontait des histoires, et c'est comme ça qu'elle introduit la pièce. Une pièce qui est pas facile parce que c'est donc comédie fantastique en 8 songes. Il y a un aspect comique, il y a un aspect fantastique et il y a un aspect onirique. Et je trouve que moi, elle a très bien réussi à lier le burlesque de la comédie, qui est une tragicomédie, dans une histoire assez échevelée, épique. Quand on la lit assez vite comme ça, on a un petit peu du mal à suivre. Donc elle a quand même, il fallait quand même s'accrocher pour arriver à tenir ces 8 songes et à les faire tenir entre eux. Et qu'elle a réussi à créer cette atmosphère onirique, aidée par les lumières de Jean Bellorini, puisque maintenant c'est un peu les coproductions avec le TGP de Saint-Denis, mais bon, tous les deux cèdent dans les spectacles, et je trouve que là, il a fait un joli travail de lumière, et que son décor, puisque décor et costume, bon, on connaît le travail de Masha Makeyev, que moi j'aime bien, elle fait un grand décor qui fonctionne pour moi assez bien, et j'étais emporté par ce souffle, cette pièce où l'on comprend pourquoi finalement elle a été interdite comme tant d'autres, puisque elle mettrait les blancs et les rouges à égalité, qu'elle montre l'absurdité de la guerre civile. Et donc, y a plein de choses dans cette pièce qui ont résonné en moi. Je conçois que c'est une pièce qui est un peu longue, un peu difficile, qui parfois est difficile à suivre parce qu'on a ses songes. Et alors, on parlera des comédiens, mais bon, avec une équipe assez solide, c'est un spectacle qui m'a agréablement surpris parce que je m'attendais m'attendais pas à avoir cette satisfaction par rapport à un texte qui me faisait un peu peur au départ. Voilà.
Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Lucille Gaumont.
Ah si, sur plein de choses, je suis d'accord, notamment sur le fait qu'il y a plein de choses dans ce spectacle. Il y a en effet tellement de choses que la scène est absolument saturée. Donc il y a énormément, donc les décors sont très impressionnants. Ce sont des décors modulables, donc ils servent à la fois à figurer un monastère, un appartement parisien, des petits appartements à Istanbul. Enfin, c'est très plastique et en même temps très fourni. Il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires. Notamment beaucoup d'accessoires qui ne servent pas directement la narration. Il y a beaucoup de personnages, les personnages bougent beaucoup. La première scène, de ce point de vue, est virtuose, parce qu'il y a énormément de déplacements sur scène, avec des effets burlesques, en effet, d'objets, de valises, on tombe, on se relève, etc. Le problème, c'est que moi, quand je suis face à un spectacle où il y a autant de choses, d'effets sur scène, tout de suite, je me dis que ça doit pallier quelque chose, doit y avoir un problème, le texte n'est pas bon. Et en effet, je suis pas sûre que le texte soit très bon. Je ne l'ai pas lu. Je crois qu'il y a beaucoup de didascalies et que c'est assez difficile, en effet, à lire comme ça. Je suis pas sûre que ce soit un texte qui raconte beaucoup de choses d'un point de vue politique ou historique. Masha Makeyev en parle dans sa note d'intention. Elle parle des réfugiés, de l'universalité de la condition de migrants. Honnêtement, je trouve que ça dit vraiment rien là-dessus. Pour le coup, on peut pas voir cette ambition-là au texte de Bulgakov. Quant aux dimensions que vous évoquez, alors la dimension comique, elle est assurée, ça c'est sûr, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la comédie musicale, il y a même des bouts de films hollywoodiens presque, il y a un personnage qui s'appelle Kloudoff qui a une dimension de film américain qui est, bon, il est super.
Il y a tout pour vous plaire.
Voilà, mais il y a énormément de choses pour plaire, justement. En revanche, la dimension onirique dont vous parliez, puisque ce sont des songes, on nous le vend, entre guillemets, comme ça, puisqu'il y a ce récit cadre de la petite fille qui rêve, la dimension onirique, vraiment, moi, je ne l'ai pas du tout vue. Je trouve que c'est très unilatéral comme spectacle, c'est un très bon divertissement, et le temps passe très vite, c'est un spectacle long, mais vraiment, le temps passe vite. En revanche, le texte ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, tout simplement parce que je pense qu'il ne raconte pas grand-chose, autre que... Voilà, des petites péripéties, c'est très chronologique, des personnages qui se retrouvent, qui s'abandonnent, qui se retrouvent encore à la fin. Voilà, je ne suis pas passionnée par le texte. En revanche, c'est du grand spectacle, vraiment, c'est du très grand spectacle.
Bon, Jean-Christophe Briançon.
Je pense que là, effectivement, la dimension onirique du spectacle en elle-même, et je pense que c'est peut-être une erreur de Masha Makeyev d'avoir à ce point appuyé dessus, dans la mesure où Bulgakov avait manifestement construit ce texte en 8 songes, pas nécessairement par volonté de construire ce texte de manière onirique, mais plutôt pour tout simplement fuir la censure possible en faisant croire ou en se permettant de pouvoir faire croire qu'il ne faisait que de raconter un rêve et pas la réalité. Donc je pense que le fait d'avoir à ce point-là appuyé sur la dimension onirique du texte est peut-être une erreur, d'autant qu'en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était fait de manière assez grossière par le biais d'artifices un peu factices, à savoir de la fumée, des échos dans les voix. Donc bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu maladroit et un petit peu trop appuyé pour être réel. Ensuite, en revanche, la dimension personnelle, moi, de cette pièce dans la vie de Masha Makeyev était quelque chose qui, dès le départ, m'a touché. Je voulais qu'elle aille dans ce sens-là. J'ai trouvé que au départ, donc ça débute dans l'appartement de ses grands-parents à Lyon, avant de partir sur le récit de Bulgakov. Et j'ai trouvé cet instant-là très beau et la présence de cette petite fille très intéressante et très belle. Malheureusement, ce fil-là n'est pas assez tiré, à mon sens, donc j'ai trouvé ça dommage, puisqu'on se retrouve devant un grand récit historique, effectivement un grand spectacle, puisqu'elle sait faire du théâtre. Là, très clairement, il n'y a pas de débat. Elle fait du théâtre comme... je pense qu'il est assez rare d'en voir, finalement, quand même. C'est un spectacle très, très bien fait, très bien ficelé, avec une scénographie, des décors, tout. D'autant qu'elle est à la tête de tout, elle fait tout. Donc c'est honnêtement vraiment impressionnant de voir quelqu'un maîtriser son médium à ce point-là. Mais bon, on se retrouve quand même face à une grande fresque qui, contrairement à ce que vous dites, Lucille, peut vouloir dire quelque chose. Mais malheureusement, ce sens-là ne se trouve que dans la note d'intention, puisqu'effectivement, Masha Makeyev nous dit dans la note d'intention qu'elle voit ce récit de Russe blanc qui fuit comme étant un parallèle possible avec effectivement les migrants d'aujourd'hui. Alors dit comme ça, ça paraît peut-être un petit peu... un petit peu tiré par les cheveux, mais dans le fond, il y a quand même un petit peu de ça, puisque dans la fuite de ces Russes blancs, il y a quand même la permanence de la volonté de ces gens de se relever après 1000 chutes. Et il est indéniable de se dire que les migrants d'aujourd'hui font preuve d'une permanence de volonté absolument étonnante, on va dire. Et donc, nécessairement, il y avait quelque chose à dire, un fil peut-être à tirer sur l'aujourd'hui. Là, en l'occurrence, ce n'est pas exactement le cas. En dehors de la note d'intention, sur scène, on voit rien d'autre qu'un récit historique. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage.
Lucine.
Non, moi, je pense heureusement, d'ailleurs, que le parallèle avec les migrants aujourd'hui n'est pas à présent sur scène, parce que ça m'aurait gêné. Je pense que là, vraiment, historiquement, c'est pas valide du tout. Enfin, c'est mon avis, on va pas rentrer là, ça serait un autre débat.
C'est pas historique, mais... c'est plus dans le ressenti individuel de ces gens-là. Oui. Et c'est ça le problème de cette pièce. Mais... Et je trouve qu'elle rentre pas assez dans les douleurs individuelles
des
personnages.
Mais parce que c'est pas des personnages qui ont des douleurs individuelles. À mon avis, le texte est écrit avec des personnages qui sont des... Pour le coup, elle le fait bien, ça. Les acteurs jouent des types, enfin, c'est pas vraiment des personnages avec des psychologies, à mon avis, très complexes. Et heureusement, vraiment qu'elle
être,
a pas.
Pour être
pas
triste de ne plus être chez soi. Hein.
Oui, non, mais c'est... oui, mais je pense que c'est pas vraiment la question. Enfin, ça me paraît pas être la question du texte. Je pense que je vois ça comme une sorte de mécanique. Et les personnages sont des petits pions et ça avance. Il y a une sorte de virtuosité, je pense, dans l'écriture qu'elle rend très bien, mais qui est une virtuosité un peu artificielle, quoi, du mécanisme théâtral. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de profondeur derrière.
Alors dans ce cas, ce serait simplement une histoire, un divertissement, quoi.
Oui, bah c'est pour ça que je trouve que c'est bien fait de
ce point
de vue.
Étonnant d'avoir pris ce sujet-là, alors. Enfin, pour Bulgakov.
C'est pour ça que je trouve que je doute un peu de la note d'intention, mais sans la note d'intention...
Non, mais dans ce cas, autant faire une course-poursuite, quoi. C'est Bip Bip et Coyote, alors, pour vous. C'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui fuit avec quelqu'un d'autre qui le poursuit derrière. C'est pas possible, non, ce sujet-là, il veut dire quelque chose, nécessairement.
Professeur Chevilly, intervenez.
Moi, je pense qu'il y a cette... Alors, si on veut le comparer aux migrants de Syrie, d'accord, on ne peut pas faire ces parallèles-là, mais en revanche, sur l'exil, oui, il y a quelque chose sur l'exil qui est très fort, qui est très important et qui touche, qui traverse l'histoire. Et sur ces Russes blancs, encore une fois, que... Bon, on n'en parle pas trop des Russes blancs. Là, la façon dont Bulyakov en parle, il leur donne tout d'un coup une réalité qui est une réalité. Et alors là, c'est que là, on vient à l'onirisme, parce que vous n'êtes pas d'accord sur l'onirisme. Mais moi, je trouve que l'onirisme, il est présent parce que ces personnages sont quand même des personnages de rêve ou de cauchemar. Ils sont assez marqués. Ce sont des, à chaque fois, ils sont quand même étranges. On parlait de Kloudov qui est en plus un tyran. Il y a les pendus dans la gare. Il y a plein de scènes comme ça. La scène aussi complètement irréelle à Constantinople, avec la fête foraine ou même l'appartement, tout a une dimension onirique. Et en même temps, il y a cette dimension, ce fil tragicomique qui est dévidé. Je trouve que, alors quand je parlais moi de l'onirisme, bon, c'est sûr qu'il y a les lumières, on peut ne pas aimer les lumières de Bellorini, on peut trouver qu'il y a un peu trop de fumée. Moi, je trouve que c'est vrai que j'ai le souvenir des fumées de Macaigne, donc maintenant,
c'est sûr que c'est moins.
Ça paraît loin.
Mais c'est surtout l'écho des voix, moi, qui m'a semblé un peu.
Et pareil, l'écho des voix
compliqué.
Parlons pas d'écho des voix avec Macaigne.
Mais surtout dans le jeu, je trouve, c'est ce que j'ai pas dit au début, je trouve qu'elle a trouvé le ton juste dans le jeu des comédiens qui arrivent à être dans une forme de burlesque un peu décalé. Alors il y en a qui en font toujours des tonnes. Geoffroy Rondeau par exemple,
il est génial.
Moi j'ai des réserves, mais j'avoue que ça, pour cette fois-ci, ça a marché. Ça avait moins bien marché sur Karamazov, parce que là j'avais trouvé que c'est pendant un peu pour Jacqueline Maillan, mais là
c'est vrai,
ça marche plutôt bien. Puis il y a René Ric qui est vraiment très bon, Caril Elgrichi, une actrice que j'aime beaucoup, Alain Fromager, enfin
il y a vraiment Fromager. C'est un génie.
Mais c'est lui qui fait un numéro de comédie musicale, mais incroyable. Il a un numéro littéralement à la fin de.
Et la musique, Alors je crois que c'est un peu, c'est des actes qui sont tirés de Shostakovich. Tout ça, c'est bien mené, parfois mieux que chez Bellorini dans les derniers spectacles, en tout cas. Et en même temps, on a ces scènes, par exemple la scène à Paris, la scène du jeu qui fait. C'est vrai. Alors vous dites c'est très divertissant, mais en même temps, à travers cet enchaînement burlesque, moi je trouve que ce texte, il est intéressant. Il ouvre des tas de possibles, mais c'est sûr que bon, c'est vraiment pas facile d'être à la fois sur le grand spectacle, d'être sur le burlesque, d'être sur le rêve. Globalement, c'est pour ça que moi j'ai forcément, il y a aussi des choses qui m'ont un peu fort. Il y a des moments où des tunnels ou des moments où je comprenais moins bien le son à cause peut-être de l'écho, etc. Mais je trouve que globalement, c'est quand même un spectacle qui, en plus, qui nous change de tout ce qu'on voit, qui nous, bon, voilà, ça m'a intéressé.
Oui, ça dépend ce qu'on va y chercher finalement à vous écouter. Moi, j'ai pas encore vu ce spectacle, on l'aura compris parce que j'ai rien dit dessus. Ça dépend vraiment ce qu'on va y chercher. Peut-être un simple divertissement, si on en croit Lucille Como, et peut-être à ce moment-là, on en sera heureux. Je vois qu'il y a même Angelin Presse-Locage, qui est convié dans la.
Oui,
dans
ça
la
m'a beaucoup fait rire.
Collaboration. Il était pourquoi
Pas parce qu'il faut voir les chorégraphies. Enfin, c'est très simple. C'est très très simple.
Ouais, donc, c'est, oui, mais c'est alors, pas c'est, idiot.
Il sait faire des choses simples
aussi. C'est pas idiot, mais alors c'est Est-ce que ça nécessitait la collaboration avec
C'est la synergie ex-Marseille,
grand chorégraphe peut-être. C'est peut-être une question de synergie ou d'amitié, je ne sais pas.
C'est bien, le pavillon noir, c'est pas loin de la criée, donc autant profiter. Philippe Chevillier.
Oui, juste dans les accessoires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un peu comme la tradition maison, à travers ce qu'elle a fait avec Jérôme Deschamps, à travers. C'est sûr qu'on l'empêchera pas de mettre plein d'objets, mais bon, ils sont plutôt beaux les objets. Moi, je trouve le décor plutôt beau, voilà.
Sur le texte, donc vous, pour vous, la profondeur est là, le texte vaut la peine.
Philippe Chevillier. Alors c'est pas peut-être le meilleur texte de l'auteur, mais je pense qu'il y a une. C'est une comédie, encore une fois. C'est sous la forme de. C'est une forme de farce, et pour moi, une farce onirique. Je trouve que le comédie fantastique ambition, ça dit bien ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'on raconte quand même des choses horribles, parce qu'on voit encore une fois ce tyran philosophe, ces gens qui n'ont plus du tout d'argent, cette défaite en race campagne, tout le monde est ridicule, les prélats, les généraux. C'est caustique et ça fait mal par moments, enfin, je trouve.
Lucille Comeau.
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur les voix, parce qu'on a parlé de cet écho. Et c'est vrai que tous les comédiens sont sonorisés. Moi, je plutôt pour la sonorisation en général, je trouve que ça marche bien. Là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du son. Enfin, je ne sais pas si vous avez été gêné, mais moi, au début, j'ai eu du mal même à entendre le texte.
J'ai lu une critique qui disait beaucoup de mal là-dessus.
Il n'y a pas seulement des échos. Oui, il n'y a pas seulement des échos. Déjà, il y a beaucoup de bruitages. Ça participe en fait de cette espèce de foisonnement. Il y a sur tous les plans, de tous les points de vue, beaucoup de choses à voir et à entendre. Et parfois, c'est pas toujours très justifié par le texte ou par le fil de la narration. Et donc, du coup, ça parasite un petit peu le côté burlesque. Parfois, ça tourne au gag. Dans ces cas-là, c'est pas toujours très intéressant.
Philippe Chevillier.
Moi, je l'ai vu à la criée. Et bon, c'est vrai qu'il me semble bien que le son n'était pas toujours parfait. Mais peut-être que c'est pas encore réglé.
Ça dépend des salles aussi.
C'est possible. Ouais. Ça doit être très dur de toute façon à régler.
Non, moi ça m'a pas dérangé sur le plan de la compréhension. Ça m'a plus dérangé sur ce que ça voulait dire du spectacle, sur l'imposition du style de Masha Makiev sur cette histoire. Là, ça m'a dérangé. Mais en revanche, en termes de compréhension, enfin d'audition, ça m'a pas dérangé de ce point de vue-là.
La fuite, pièce de Bulgakov, mise en scène par Masha Makiev. C'est jusqu'au 17 décembre au TGP à Saint-Denis. Puis il y aura d'autres dates, 21-22 décembre au Théâtre Liberté à Toulon, du 9 au 13 janvier au Célestin à Lyon et les 19 et 20 janvier au Quai à Angers.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, c'est El Otro de Luis Guenuel, inspiré du livre L'infarctus de l'âme, livre qui voit la collaboration de Paz Errázuriz, la photographe, et l'écrivain Diamela Eltit, livre donc composé de photos prises dans l'asile de Putaendo au Chili et de textes qui les accompagnent, ces photos. Les deux artistes s'intéressaient à l'amour fou, à l'amour hors des normes sociales, avec sept interprètes, Luis Guenuel veut donner vie et mouvement à ces images.
Has visto mi rostro en algunos de tus sueños. Aparezco en tus sueños, serena o reprochándote por las faltas que contiene el pasado.
Si pudieras entender que tú y yo habitamos en una tierra difusa, una tierra con grietas tan profundas que impiden nuestro encuentro.
Podría confesar en este mismo instante que cuando te veo así, lejano, me gustaría que la tierra te cegara. Imagino una muerte digna de tu altura. He llegado a pensar que mi propia mano sería vengativa. ¿Con qué derecho viste de torcer el curso de mi mano?
Yo no torcí tu mano. Fue el ángel. El mismo ángel que ahora se niega a llevarme sobre sus espaldas y me desprecia y me abandona en los peores caminos. No hay sombra más devastadora más poderosa que la que proyecta el vuelo de un ángel.
El Otro se joue en ce moment au Théâtre de la Ville, à l'espace Pierre Cardin, dans une nouvelle salle, une petite salle, très bien agencée et équipée pour des formes plus petites que la grande salle de l'espace Pierre Cardin. C'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris, et c'est Jean-Christophe Brianchon qui commence à nous en parler.
C'est une pièce compliquée, dont il est compliqué de parler, parce que on peut être tenté d'en dire à la fois le plus grand mal et en même temps le plus grand bien. Puisque c'est une pièce...
Vous n'avez qu'à faire ça et nous on va quitter le studio, comme ça vous ferez la dispute entre vous et vous, Jean-Christophe.
Je m'auto-contredirais. J'aurais pas de mal, parce qu'effectivement, oui, j'en ai pensé des choses très contradictoires. Mais avant tout, quand même, s'en dégage une réelle beauté, une réelle mélancolie qui tient... Avant tout, je crois à, enfin, j'ai trouvé à la scénographie, à cette mise en scène. Là, on se retrouve au départ dans une sorte de, c'est une sorte de scénographie du désastre, comme un lendemain de fête, avec un plateau vide, des ballons un peu crevés sur scène et une table de pique-nique pendant qu'une vieille femme rentre sur le plateau. Avec une attitude qui semble montrer qu'elle n'a pas toute sa tête, a priori. Voilà, d'un coup, la lumière s'éteint, un grand tremblement retentit, et sur l'écran de fond de scène est marqué « Je suis tombé amoureux ». Et donc, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez beau, de très désastreux, mais désastreux dans le bon sens du terme, dans le sens où ça dépeint une vie qu'on vit tous et qui, parfois... voilà, des hauts et des bas. Là, en l'occurrence, ce sera beaucoup de bas, hein, quand même.
Bah, faut le dire. Beaucoup de hauts aussi.
Mais des hauts par la force des sentiments que les gens ressentiront, forcément.
Ils en vivent de l'amour.
Donc voilà, c'est très beau. Après, c'est un amour qui sera toujours défectueux et voué manifestement à la défaite. Ce qui, compte tenu de la note d'intention de Louis Guenuel, est particulièrement... on va dire pessimiste, puisque manifestement pour lui, l'amour était une des seules manières de pouvoir contrer le désastre du monde dans lequel on vit, le désastre politique entre autres, et avoir sa pièce et avoir l'échec des histoires d'amour que vivent les protagonistes de cette pièce, on se dit qu'alors peut-être n'y a-t-il aucune solution au désastre dans lequel on vit. Et ce serait particulièrement pessimiste, mais ça reste du coup très beau, malgré quand même quelques excès... qui sont des excès, j'ai trouvé assez datés en termes de tentatives d'avant-garde, on va dire. C'est une mise en scène, une scénographie qui rappelle beaucoup de choses des années 90. Moi, ça m'a beaucoup fait penser, en particulier, à la scénographie de Jérôme Bell, du spectacle Jérôme Bell, qui date donc de 1995. Ce plateau nu, cette ampoule mise à nu au-dessus d'une douche, qui est une des plus belles scènes du spectacle, ce moment où deux femmes prennent leur douche en dessous de cette ampoule avec un éclairage vraiment très beau. Donc voilà, c'est une scénographie à la fois qui tient à la fois de l'avant-garde et en même temps qui est très datée, puisqu'elle se réfère quand même à des choses très anciennes.
Voilà, pour la contradiction, un exemple frappant. Lucille Como, El Otro.
Oui, c'est un théâtre vraiment de corps, voire même presque chorégraphique, hein, plus que de texte. Donc il y a ce texte qu'on entendait dans l'extrait qu'on a diffusé, qui moi pour moi est passé vraiment au second plan parce que je le trouvais pas très beau. Enfin, moi je comprends pas l'espagnol, donc je lisais la traduction sur l'écran. Quelque chose de très poétique, très ampoulé, très lourd et chargé. Donc j'ai très vite abandonné la lecture même du texte pour me concentrer sur ce que je voyais sur scène, qui est très impressionnant. C'est vraiment quelque chose qui donne des sensations très fortes. C'est vrai que c'est difficile d'en parler. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les corps qu'on nous donne à voir sont des corps handicapés. On se rend compte à la fin seulement au salut que, en fait, les personnes sont des personnes valides et non pas des personnes handicapées, ce qui du coup éloigne beaucoup le spectacle de spectacles qu'on a pu voir avec des acteurs handicapés, par exemple ce que fait Madeleine Louarne, c'est pas du tout la même démarche. Moi c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Oui, exactement. Donc là c'est vraiment autre chose, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et qui peut mettre mal à l'aise parce qu'il y a cette volonté de représenter avec des corps valides, entre guillemets, des corps qui ne sont pas des corps normés. Donc de ce point de vue là c'est très impressionnant. L'autre chose qui est impressionnante et qui finalement invalide un peu ce que je viens de dire, c'est que non mais c'est parce que en fait, ce qui est violent dans le spectacle à mon avis n'est pas du tout justement lié au fait que ce sont des corps de personnes handicapées. C'est lié au code et à la société que construisent ces personnages entre eux, qui est une société violente, où les rapports amoureux sont violents et différents, où les rapports de haine sont extrêmement présents et très physiques, puisqu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'échange dialogué entre les personnages. Donc du coup, la violence qu'on ressent est une violence qui n'est pas liée à la caractérisation première, je trouve, de ces corps-là. Et ce qui est violent, c'est l'autre de code réinventé totalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'assister dans cette scénographie qui est en effet très belle et assez vide, à la reconstitution d'un monde qui fonctionne différemment d'une autre, où les rapports sociaux sont tout aussi violents, voire plus. Et c'est ça qui est dur, moi, je trouve. Mmh. C'est ça qui est violent. C'est la violence entre les personnages, au-delà du fait que leurs corps sont des corps qui sont difficiles à voir et... des corps avec des tics, il y a beaucoup de hannonnements, il y a beaucoup de cris dans cette pièce. Elle dure pas très longtemps, mais vraiment, moi, j'étais soulagée que ça s'arrête. Je trouvais ça très impressionnant au sens choquant du terme. Mmh. Et je suis sortie, je faisais pas ma maline.
Philippe Chevillet, sur El Otro.
Eh bien, je vais vous dire que je suis assez partagé aussi.
Bon.
On est tous les trois partagés. Il y a une dimension qui est une performance en même temps d'acteur et qu'une performance sincère en plus, qui n'est pas un truc. Ces comédiens sont allés voir dans un hôpital psychiatrique, donc reproduisent sur scène d'une certaine façon ce que vous disiez, c'est Jean Valide, un côté documentaire et qui parfois domine et on est un peu dans la situation de voyeur, on ne se sent pas très bien. Et par moments, il y a des instants qui sont extrêmement poétiques. Je prends l'exemple de la vieille dame qui se retrouve coiffée par le vieil homme d'une couronne en carton. Mmh. C'est très, très beau. Il y a la scène de la douche. Et où là, on a des moments où on a l'impression que le théâtre transcende justement le réel et qu'on est dans quelque chose qui est du théâtre sans être pour autant exagéré ou mettre mal à l'aise. Et j'ai l'impression que ce qui m'a gêné dans ce spectacle, c'est qu'il est toujours un petit peu entre deux. Entre cette démonstration ce qu'est la vie dans un hôpital psychiatrique, ce qui peut être une métaphore, mais enfin qui est quand même une représentation assez réaliste, et des moments où le théâtre le tire vers quelque chose d'autre. Moyennant quoi je trouve que moi, le texte m'a assez intéressé. Il est brutal, il est brut. C'est comme de l'art brut, un texte brut, qui m'a plutôt ému. Et que si l'on prend la note d'intention de départ, de montrer que l'amour est possible, et moi, je le vois, c'est peut-être mon côté optimiste, mais je ne le vois pas forcément comme un échec. Je trouve que, pour le coup, la volonté du metteur en scène et la volonté de l'équipe des comédiens, c'est réussi parce qu'on y croit à ces moments amoureux, à ces moments d'amitié, puisqu'il y a aussi le jeu entre le petit personnage et le vieux qui sont là à jouer entre eux. Il y a des moments d'amitié qui sont forts, il y a des moments de violence aussi. Donc, je suis sorti en me disant, bon, le pari est tenu, mais le pari est tenu sur le fond. Mais en même temps, comme expérience théâtrale, j'ai eu l'impression d'être un peu ballotté et de rester en plus extérieur parce que du coup, quand c'était vraiment une démonstration de la vie dans l'hôpital psychiatrique, j'avais tendance à me refermer, à être extérieur. Donc est-ce que c'est ce qu'il fallait ? Voilà pourquoi je suis sorti entre deux eaux.
Alors moi, j'hésitais à être d'accord avec moi-même, donc finalement, à vous écouter, je me dis qu'il faut que je tranche. Donc la note d'intention, c'est un problème parce que j'ai pour habitude de les lire plutôt après, mais là, comme elle est quand même affichée pendant les 59 minutes le soir où j'étais de la représentation, ça clignote vraiment tout le temps devant nos yeux. C'est regarder ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qu'on met à la marge, regardez-les. L'amour, c'est la dernière utopie possible dans ce monde-là. Enfin, franchement, on a compris quand même assez rapidement, et je trouve que ce n'est pas d'une énorme finesse, même si la justesse du propos existe, hein. Oui, il faut regarder. Mais moi, j'ai pas envie de regarder des comédiens qui rejouent quelque chose du réel. Moi, je pense qu'il y a un problème du rapport au réel qui, moi, m'a absolument dérangé. Je le dis, voilà, sans contradiction avec moi-même. J'étais mal à l'aise de voir des gens singer la folie, l'aliénation et là encore, ça n'engage que moi à ce propos, mais je crois qu'il n'y a que le documentaire qui peut vraiment donner à voir la réalité de ces êtres, enfin une réalité. Un documentaire, c'est du montage, tout ce que vous voulez. Si on est allé soi-même dans les hôpitaux psychiatriques, on a pu le voir très directement, mais sinon, je pense à Depardon, je pense à Wiseman, je pense à Tjadjanke, je pense à des tas de...
Wong Bing.
À Wong Bing aussi, enfin, des gens qui ont été effectivement dans les hôpitaux et qui ont ramené des objets qui sont des objets artistiques, ce sont des artistes, les documentaristes dont je parle, et qui peuvent transmettre quelque chose. Moi, ça m'a vraiment posé problème pendant tout le spectacle, je me disais ça, et en sortant, je faisais certes pas le malin non plus, mais j'étais plutôt, en fait, énervé. Alors que j'entends bien la sincérité, je n'en doute pas. Je pense que cette recherche-là, effectivement, elle a quelque chose d'aujourd'hui dépassé qui me reproche plutôt les années 70 que les années 90. Lucille Como.
Oui, moi, je vois vraiment un exemple parfait de l'œuvre qui échappe totalement à son metteur en scène, parce que j'ai lu la note d'intention après. Je ne l'ai pas lu vraiment sur scène. Les intentions, je trouve, ne sont pas forcément très détectables. Par exemple, le caractère documentaire, je ne l'ai même pas noté. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'a frappée. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Pas du tout. Je trouve que la scénographie, la lumière, la manière dont c'est mis en scène, dont les déplacements se font sur scène, montrent tellement leurs propres artifices, et c'est ça qui est beau, qu'à aucun moment je me suis dit « Ah, c'est pour documenter l'altérité physique de personnes handicapées ». Vraiment, je ne me suis pas du tout posé cette question-là. Donc ça m'a gênée à d'autres niveaux, même quelque chose qu'on éprouve quand on regarde des films fantastiques, à la limite, évidemment j'ai pensé à Freaks, mais même à des films de David Lynch, quelque chose qui touche profondément quelque chose d'archaïque en soi, mais pas du tout parce que ça documentait un réel qu'on ne veut pas voir supposément. Alors pour le coup, quand je lis la note d'intention, je ne vois pas du tout le rapport avec ce que j'ai vu du spectacle, mais pas du tout.
Moi non plus, assez peu. Ça m'a fait plutôt rire d'ailleurs, du coup, de voir exactement comme vous dites.
Oui, je me suis dit vraiment, il a de la chance, c'est bien mieux que ce qu'il voulait faire.
Ah d'accord, ah, oui c'est
non,
ça.
Mais c'est ça, voilà.
D'accord. Je suis assez d'accord.
Bon, on n'a pas décollé, hein, Philippe Jevillier.
Bah non, c'est que moi, il y a des scènes, on voit bien de représentation de la folie. C'est sur chaque personnage avec des nuances différentes. Et ce qui
propose un type de folie, enfin il y a presque une typologie en plus, oui. C'est ça qui était gênant, et typologie de rapport entre malades, enfin bon.
Ça se voit quand on voit l'homme avec sa craie qui a cette démarche, qui compte ses pas, cette
l'obsessionnel.
L'obsessionnel, et puis enfin on peut tous les décrire les uns après les autres. Moi c'est ce qui m'a frappé d'emblée, et j'avais pas lu la note d'intention non plus. Hein. mais simplement d'emblée aussi, j'ai compris ce qu'il voulait nous dire avec le message, cette impossibilité de communiquer par les mots avec l'histoire de l'homme qui est avec cet ange sur les épaules et là on comprend que cette impasse, et on comprend il veut nous emmener. Bon, c'est vrai qu'il nous emmène pas ailleurs, mais voilà, ça m'a pas transporté. Et je pensais justement aux images, puisque c'est inspiré aussi d'un ouvrage.
Oui, beaucoup même. D'un ouvrage qu'on trouve pas en France, hein, hélas. Mais
texte et photos. Et quand on regarde les photos tout de suite me bouleversent beaucoup plus que ce que j'ai vu sur scène. Et pourtant, je reconnais ce qu'ils ont fait sur scène. C'est énorme le travail qu'ils ont dû faire pour en arriver là, quoi. C'est...
Ouais.
Donc voilà pourquoi je
renverrai
suis...
plutôt au livre. Parce que moi, en fait, la question, je me dis, c'est quoi le projet, en fait, comme c'est une expression certes courante aujourd'hui, mais je ne comprends pas, en fait, la nature du projet de ce spectacle. Pour sa validité,
Le projet, il va pas bien loin. Enfin, exactement comme le texte que j'ai trouvé très beau, mais pour autant très naïf.
Par moment, j'ai trouvé beau aussi.
Moi, je l'ai trouvé très beau.
Quelques phrases très
belles. Mais pour autant, quand même, assez simpliste dans son propos. Et voilà, le projet, il est juste là, dans simplement la folie vers laquelle peuvent amener des histoires d'amour qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Mmh. Et je suis pas sûr qu'il faille pouvoir chercher
plus loin. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je vois l'inverse. Totalement. C'est-à-dire, c'est comment?
C'est-à-dire?
C'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont comment chez des gens aliénés dans leur univers complètement fermés sur eux-mêmes arrivent quand même à communiquer, arrivent quand même à s'aimer,
à créer un lien avec l'autre
et à créer un lien avec d'autres, d'amitié ou d'amour aussi violent soit-il. Bon. Ça revient peut-être au même, hein, mais regarde de l'autre côté.
Vraiment, ce qui discrédite le spectacle, c'est le carton final, je est un autre.
Oui, ça c'est
franchement, c'est pas possible.
Voilà,
je suis
d'accord.
Exactement de la même manière que sur la note d'intention, l'autre c'est toi, c'est
oui,
moi.
Mais...
Oui.
Problème.
Bon.
Enfin, bon.
Voilà. Laissez le combo.
Moi, j'ai vraiment
dernier
vu
mot.
La dimension plastique avec une série de duos, des ensembles. Enfin, comme j'aurais vraiment vu un spectacle de danse. C'était vraiment ça que ça me suffisait, quoi. Je voyais que ça.
Alors, il n'est pas assez dense. D-A-N.
Oui, oui.
Non, mais vraiment, je trouve. J'aurais préféré un vrai spectacle de danse, sans aucun mot, sans aucune parole. Bon. Nous avons les avis divergents, y compris au sein de nous-mêmes, concernant El Otro de Louise Guenel, donc ça vaut la peine d'y aller voir. C'est dans le cadre du festival d'automne, c'était au Théâtre de la Ville, à l'espace Pierre Cardin, jusqu'au 9 décembre. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, et on commence par un rappel du jeu de vendredi soir que Grégoire Di Fior va assurer ce rappel. Il va nous donner la question et même la réponse.
Quelle actrice fut récompensée du César de la meilleure actrice pour son rôle dans Haut les cœurs? Et la réponse était Karine Viard.
Ce soir, on fait gagner des DVD du film Poesia sin fin d'Alejandro Jodorowsky qui est distribué par Potemkin. Quelle est la question?
À quel art divinatoire le réalisateur a consacré un livre?
Ah, votre réponse et vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr, en passant, vous vous abonnez au podcast de la dispute. Demain, 19h, dispute musicale en compagnie de Mathilde Serrel, Hugo Cassavetti et Mathieu Conquet. À notre sommaire, Utopia de Björk, The Animal Spirits de James Holden et The Animal Spirits, et puis Hip Hop Family Tree, tome 3, c'est la grande BD historique d'Ed Piskor.